Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Antoine Basbous.
Bonjour madame.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes politologue, associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Ce tournant peut-être, peut-on l'espérer, ces déclarations tournant du côté des discussions, des échanges, des négociations et puis cette déclaration de Donald Trump ce matin, la guerre est quasiment finie. Est-ce qu'on peut le croire ?
Il y a 10 tournants dans les déclarations de Monsieur Trump tous les jours et ils sont parfois contradictoires entre le tournant de vouloir détruire la civilisation iranienne et la fin de la guerre. Il y a beaucoup d'écarts en peu de jours. En tout cas, il y a peut-être un rendez-vous diplomatique qui se prépare à Islamabad entre les deux délégations. Il y a le rendez-vous du 21 avril, la fin du cessez-le-feu. Il y a le blocus d'attente, en quelque sorte. Donc, ça se joue bras de fer en attendant soit le retour aux armes, soit le retour à la table des négociations.
Ça veut dire qu'il y a une sorte de compte à rebours qui est lancé. La date du 21 avril, elle est évidemment très importante. Mais lorsque vous dites, en fait, on ne sait plus exactement, effectivement, lire le Donald Trump, on va essayer de comprendre ce qui pourrait faire, au fond, que cette fois-ci, ça marche. Et notamment, prenons un par un les différents points. On va revenir évidemment sur les discussions entre Israël et le Liban qui ont été, disent-ils, constructive hier soir, mais d'abord cette évocation d'une reprise des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci et que ça n'a pas marché la dernière fois?
Parce que peut-être que les uns et les autres sont revenus à de meilleures considérations du rapport de force et que les Américains auraient peut-être mis un peu plus d'eau dans leur vin et surtout les Iraniens se seraient rendus compte que négocier cette fois-ci, ce n'est pas pendant des années, mais il faut aboutir à des résultats assez rapides, d'autant plus qu'ils sont maintenant sous blocus, qu'ils ont beaucoup de pertes, qu'ils ont des infrastructures détruites et que eux aussi, malgré leur résilience, ont besoin d'aboutir, ont besoin d'une sortie pour retrouver un semblant de vie.
Il y avait plusieurs points sur lesquels, de toute façon, dès le départ, ils n'étaient pas d'accord et qui ont fait que ces dernières négociations ont avorté très vite, notamment la question de renoncer au nucléaire. Est-ce que c'est un point sur lequel, en réalité, l'Iran serait prêt à véritablement faire un pas ? Parce qu'il y a les déclarations et puis il y a le réel.
Rappelez-vous, au début de la guerre, on voulait détruire le régime, changer de régime. Or, aujourd'hui, on est en train de consolider le régime en signant avec lui un accord sur l'avenir du nucléaire. Les Américains auraient demandé 20 ans de suppression, de suspension du programme nucléaire. Les Iraniens auraient accepté 5 années, c'est-à-dire au-delà du mandat de Donald Trump. Mais il n'y a pas eu accord. Or, l'état d'esprit, la mentalité de Vince en arrivant à Islamabad, c'était « j'ai plié le match, venez signer ». C'était pas comme ça que les Iraniens entendaient cette négociation. Donc il n'y a pas eu de prolongation, 20 heures de négociation et rupture.
Vous le dites, le régime qui finalement sort presque renforcé, qui a l'avantage au moment où on se parle ?
Évidemment, les États-Unis ont vraiment brisé les reins de la République islamique.
On l'oublie presque, parce qu'ils fanfaronnent.
Parce que l'Iran est dans le déni. La mort des hommes chez les Iraniens qui sont formatés pour dire nous sommes des shuhada, des martyrs, nous allons rejoindre le Mahdi au paradis. Donc ça n'a pas la même valeur. Les Iraniens ont perdu 13 soldats, dont certains par la chute d'un avion,
par les accidents,
et non pas par un acte de guerre. Alors que les Iraniens sont vraiment par terre, mais eux ne reconnaissent jamais qu'ils ont subi de tels dégâts. Ils se disent toujours combatifs et se réclament comme étant issus d'une civilisation, ce qui est vrai, mais ils veulent pas
Il y a la civilisation, il y a le régime des mollahs, mais lorsque vous dites ils ne le reconnaissent jamais, le reconnaîtront-ils ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait, au fond, véritablement briser ce régime ? Si on en reste au régime, même si on a bien compris que c'était désormais même plus dans la liste de courses des États-Unis.
D'abord, une réaction en interne, mais cette réaction tarde à venir parce que le régime a non seulement mobilisé les Bassides, c'est-à-dire la police locale, mais aussi fait venir du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Irak, des chiites qu'ils avaient embrigadés auparavant pour faire le coup de feu et maltraiter la population qui sortirait dans la rue. Donc il est de ce côté-là suffisamment fort pour continuer à se maintenir. Et puis il a quelques réserves, il a des proxys, le Hezbollah au Liban, les Hezbollah en Irak qui continue après le cessez-le-feu à bombarder les pays du Golfe, au point que l'Arabie a convoqué l'ambassadrice d'Irak à Riyad pour
qu'est-ce qui peut aboutir de cela, parce que évidemment on va prendre le temps aussi de comprendre ce qui pourrait se jouer entre Israël et le Liban, mais lorsque vous dites au fond il y a le cessez-le-feu, l'Iran laisse entendre qu'il et montre qu'il le respecte pour l'instant, on est bien d'accord. Donc les frappes que vous évoquez ne sont pas directement le fait de l'Iran. L'Iran peut dire c'est pas nous, mais c'est tout de même des proches de l'Iran.
Mais de qui se moque-t-on? Quand le Hezbollah au Liban ouvre un front sur instruction de Téhéran, commandé par les Pasdaran qui sont au Liban, c'est au profit de qui il le fait? C'est pas le gouvernement libanais, c'est Téhéran qui a décidé ainsi. C'est pour ouvrir un front de substitution. C'est la sentinelle libanaise qui veut soulager la citadelle iranienne. C'était début mars, au début des affrontements. Idem pour les milices du Hezbollah en Irak. Quand l'Iran dit « je respecte le cessez-le-feu », il dit à ses milices en Irak « allez, tapez le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie ». Et il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu 700 000 barils de sortie après le cessez-le-feu parce que les milices irakiennes ont frappé un oléoduc en Arabie. Ils ont détruit beaucoup de choses au Koweït également. Mais tout ça... Il faut pas être naïf à ce point.
C'est l'Iran
qui donne directement. C'est le commandement iranien des Pasdaran qui ordonne et les autres exécutent.
Antoine Basbous, cette rencontre hier à Washington, une rencontre directe pour la première fois depuis des décennies entre le Liban et Israël. Les deux parties ont estimé qu'il s'agissait de premières rencontres constructives et qu'il y aurait une suite. Qu'est-ce qu'on doit comprendre et qu'est-ce qu'on peut en attendre?
D'abord, c'est un tabou qui a été brisé puisque la dernière rencontre remonte à 1983. Deuxième chose, les deux sont d'accord sur le point qu'il faut trouver une solution pour vivre côte à côte et non pas en guerre. Mais qui fait la guerre? C'est le Hezbollah. Qui est le Hezbollah? Laissez-moi vous rappeler deux, trois choses. L'actuel chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a écrit un bouquin dans lequel il raconte la soirée à Téhéran au cours de laquelle l'ayatollah Khomeini a signé le décret de création du Hezbollah. Donc le Hezbollah a été créé à Téhéran par un décret de Khomeini. Je vous rappelle également que Nasrallah, l'ancien chef charismatique, disait à la télévision et répétait « Je suis un soldat dans l'armée de Wali al-Faqih ». Wali al-Faqih, c'est-à-dire Khamenei. Et donc le Hezbollah...
Le lien intrinsèque, quasiment enfanté par l'Iran en fait, du Hezbollah, c'est ce que vous nous dites.
Mais c'est une réalité reconnue par tous. Un livre signé par l'actuel secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, décrit dans le détail
tout
ça.
Mais alors, on a quand même du mal à comprendre comment, sachant tout cela, et tout cela étant écrit, le Hezbollah a pu prendre une part aussi institutionnelle dans l'ensemble du puzzle libanais.
Parce que le Hezbollah... a été aidé, renforcé, dopé par l'Iran et il a infiltré d'autres communautés. Il a pris part au pouvoir, il a su se faire grandir parce que le Liban faisait partie de l'axe de la résistance avec la Syrie. Et la Syrie, maintenant qui n'est plus dans l'axe iranien, c'est une occasion, une opportunité unique pour que le Liban retrouve le chemin de la souveraineté.
Deux questions, Antoine Basbous. Est-ce que le Liban peut faire comme si le Hezbollah n'était plus là? Parce qu'au fond, c'est un peu cette carte qu'il joue en ce moment à Washington. Il négocie, il discute, comme si le président de la Assemblée nationale n'était pas membre lui-même du Hezbollah, comme s'il n'y avait pas ces accords institutionnels avec le Hezbollah. Est-ce qu'il peut vraiment s'en passer? Et est-ce que le Hezbollah est aujourd'hui, malgré tout, affaibli?
Deux choses. Khamenei, en recevant le président libanais Michel Souleiman en novembre 2008, lui a dit exactement, entre guillemets, c'est un ministre présent, Michel Edde, qui me l'a raconté, « j'ai confié une mission à Hezbollah d'éliminer Israël et de reconquérir Jérusalem ». Ça, c'est Khamenei qui dit cela au président libanais. Donc, ce sont les pasdarans libanais, le Hezbollah. Ils ont créé des séminaires, des mabarrat, pour formater une jeunesse aux valeurs de Wali al-Faqih, aux valeurs de la République islamique. Donc, c'est ancré, c'est bien structuré. Sauf qu'aujourd'hui, le Hezbollah est synonyme de malheur au Liban. Il a mené des guerres qui ont fait perdre le pays, sa sécurité, sa prospérité.
Mais peut-il passer outre ? C'est-à-dire que le Hezbollah maintient et dit et fait savoir depuis 24 heures qu'il refuse évidemment toute conclusion ou tout ce qui ressortirait de cette discussion entre Israël et le Liban. Et le pouvoir libanais officiel, le président libanais, lui dit non, on va mener ces discussions. Comment ça peut marcher, ça ?
Eh bien, le Hezbollah n'est plus un poisson dans l'eau au Liban. Il est presque détesté par l'ensemble des communautés, de l'opinion publique, y compris chez les chiites. Parce que par son action sur instruction de Téhéran, il a jeté sur les routes plus d'un million de chiites qui ont quitté le Sud et qui pourraient ne plus jamais revoir le Sud. Et ils sont plus accueillis parce que quand un chef du Hezbollah s'introduit dans un immeuble, Israël vient frapper l'immeuble. Donc, ils sont plus du tout les bienvenus ailleurs. Ils sont sous pression. Et le gouvernement libanais a pris des décisions qui n'existaient pas auparavant. Le désarmement du Hezbollah, même s'il n'a pas la capacité ou peut-être parfois la volonté, parce qu'il y a des complicité quelque part.
C'est quoi ces complicités ? Je lisais hier dans l'éditorial de L'Orient Le Jour, effectivement, qu'ils disaient au pire, enfin au mieux, le gouvernement libanais n'a pas réussi à désarmer le Hezbollah. Au pire, il a été berné ou s'est laissé berner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Vous savez, une partie du gouvernement libanais actuel a fait son ascension sous la férule du Hezbollah. C'est-à-dire, ces gens-là étaient aux affaires auparavant, quand le Hezbollah construisait son armement, ses tunnels, ses stocks d'armes, recevait les passes d'Aran, recevait les milliards de dollars de l'Iran. Donc, ils sont quelque part, ils ont fait leur ascension ensemble. Ce sont des sous-traitants. Ils sont restés au pouvoir aujourd'hui avec la mentalité de sous-traitants du Hezbollah, alors qu'ils sont les chefs et que le Hezbollah est rejeté par l'opinion publique libanaise.
Antoine Masbou, la question évidemment du cessez-le-feu entre au Liban. Ce matin, à l'aube, il y a eu une frappe israélienne contre une voiture à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Alors, certes, c'est une voiture ciblée, semble-t-il, mais ça veut dire que les frappes se poursuivent. Est-ce que les discussions peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un cessez-le-feu réel ?
En 2024, il y a eu un accord entre le Hezbollah et Israël dans lequel il y a eu cessez-le-feu, mais donnant à Israël la possibilité d'aller continuer à frapper là où il faut. Et donc, c'était un accord léonin que Israël est en train de poursuivre sous la supervision des États-Unis. Et donc, il y a des cibles sélectives, et il y a même eu des cibles qui n'en sont pas sélectives mercredi dernier, qui ont été
frappées. Mercredi dernier, avec ces frappes considérables, effectivement.
Il y a eu un carnage à Beyrouth. Et donc, Israël ne va pas s'arrêter. Israël a la volonté de créer une zone de protection de 8 km.
C'est une zone de protection ou c'est une zone d'occupation ?
C'est une zone d'occupation, mais qui pourrait devenir une zone annexée, parce que Monsieur Smotrich, le ministre israélien des Finances, a demandé l'annexion.
Qui est membre de l'extrême droite et qui est dans cette coalition autour de Benjamin Netanyahou.
Il a demandé l'annexion du sud Liban jusqu'au Litanie. Et c'est pas une revendication récente, puisque avant la naissance d'Israël, il y avait des dirigeants qui réclamaient l'annexion jusqu'au Litanie.
Mais ça met évidemment en péril tout début de discussion crédible, solide entre le Liban et Israël.
Non, si ça se fait sous égide des États-Unis, eh bien les États-Unis peuvent garantir que il n'y aura pas d'annexion d'un côté, mais il va falloir aussi garantir le retour des réfugiés dans leur domicile. Or, Israël, aujourd'hui, est en train de démolir tout ce qui est sur la frontière. Au point que, à côté du siège de la FINUL à Nakoura, ils ont
démoli... Nakoura, c'est où ?
c'est à la pointe sud de la frontière, sur la mer, une belle cité. Eh bien, il y a un hôtel à côté du siège de la FINUL que les Israéliens voulaient détruire à la dynamite. La FINUL a dit, mais si vous le faites, notre QG va sauter par le souffle. Donc ils ont réussi à ce que Israël le détruise avec des pelleteuses.
Avec des pelleteuses, donc ils l'ont malgré tout détruit. Ça veut dire qu'en fait, il y a cette discussion, c'est assez inouï d'imaginer même sur le terrain ces discussions-là. Vous parlez de la FINUL, quel peut être le rôle de la France? On a bien compris qu'Israël ne souhaitait pas et refusait même que la France participe à ce moment de discussion comme une sorte d'entremetteur ou de participation justement entre les deux, plutôt aux côtés du Liban, semble-t-il. Quel doit être le rôle de la France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire?
La France est un ami, est un protecteur du Liban. Il faudrait qu'elle reste dans le jeu, accompagnée par les États européens. Aujourd'hui, la FINUL est structurée autour de forces européennes, que ce soit espagnoles, italiennes, françaises. Ça reste quand même la colonne vertébrale de la FINUL. Il va falloir trouver un successeur de la FINUL avec la présence de la France et de l'Europe pour garantir la sécurité à la frontière au-delà de la fin de cette année.
Israël qui dit donc qu'il ne veut pas de la France. Est-ce que vous vous dites, Antoine Basbous, qu'au moment où on se parle, on est peut-être à l'aube quand même sur cet angle-là, sur la question vraiment de la cohabitation Liban-Israël dans un moment véritablement qui pourrait être historique?
Oui, il y a eu un tournant. Un vrai tournant, le tabou est tombé, la négociation directe a eu lieu et sur la photo hier au département d'État, il y avait 6 personnalités et ils ont placé l'ambassadrice du Liban à côté de l'ambassadeur d'Israël.
Ils étaient vraiment côte à côte.
On
ne les a pas vus se serrer la main à proprement parler, mais ils étaient vraiment côte à côte.
Côte à côte sur la photo souvenir et face à face dans la négociation avec Marco Rubio, le secrétaire d'État.
Hormuz, le point de reprise de la guerre, est-ce que c'est là que ça se joue? Vous avez commencé cet entretien en évoquant la date du 21 avril, qui est la date butoir de la fin du cessez-le-feu tel qu'il avait été décidé. Qu'est-ce qui peut se jouer à Hormuz, là, dans les heures qui viennent?
C'est une position d'attente pour les uns et les autres. Chacun a placé ses hommes et ses conditions en attendant soit la reprise des négociations, soit la reprise de la guerre pour passer à ce que M. Trump avait dit, je détruis les centrales électriques, je détruis les centrales de dessalement et je rends j'éteins la lumière.
Cette pause, en quelque sorte, on va terminer cet entretien, mais on l'apprend à l'instant. L'armée israélienne déclare que le Hezbollah a tiré ce matin une trentaine de roquettes, donc depuis le sud du Liban vers le territoire d'Israël. On parlait tout à l'heure de la frappe contre une voiture faite par Israël à l'aube, et là, c'est donc une trentaine de roquettes évoquées qui auraient été tirées par le Hezbollah.
Le Hezbollah a tiré depuis le 2 mars. Sur instruction de Téhéran, plusieurs milliers de roquettes sur Israël. Alors que le gouvernement libanais, dans lequel le Hezbollah dispose de 2 ministres, avait ordonné le désarmement du Hezbollah et la suppression de sa branche militaire et sécuritaire.
Et donc on le voit encore ce matin, effectivement, la démonstration que tout cela ne fonctionne pas.
Tout cela ne fonctionne pas.
L'autorité du Liban, en tout cas sur le Hezbollah, est défiée, au minimum.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci Antoine Basbous d'avoir répondu à mes questions ce matin et de nous avoir expliqué ce tournant peut-être face auquel on est. Vous êtes politologue et associé chez Forward Global. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.